Thibault Le Sueur, bonjour.
Bonjour.
Un quart de la population centrafricaine environ, déplacée ou réfugiée à l'étranger, des besoins humanitaires colossaux, une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer depuis un an. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi 2017 est à ce point un retour en arrière?
Il faut partir en fait d'un constat, c'est que beaucoup ont vu à travers les élections donc qui ont été organisées fin 2015, début 2016, une étape importante vers le processus de sortie de crise en Centrafrique. On a observé après les élections, c'est vrai, une accalmie sécuritaire de quelques mois. Et depuis fin 2016, on se rend compte que les groupes armés sont toujours aussi bien armés et que maintenant ils se remettent à attaquer les populations civiles et puis qu'ils continuent à contrôler en effet 75% du territoire.
Est-ce qu'il y a un risque de voir un embrasement généralisé comme le pays en a connu en 2013-2014?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'ingrédients en effet qui sont là. Alors bien évidemment, déjà on a des groupes armés qui sont encore une fois très bien armés, mais on a aussi la question identitaire qui résonne beaucoup en ce moment avec cette idée, par exemple pour de nombreux Centrafricains, que les musulmans sont étrangers et que donc ils devraient être expulsés du pays ou en tout cas le plus à l'est possible de la Centrafrique. Cette question identitaire qui est très présente fait que beaucoup utilisent des références historiques hein, pour reparler du temps où il y avait ces étrangers qui venaient esclavagiser, entre guillemets, les populations animistes et chrétiennes, tout ça pour mobiliser la jeunesse et on voit que ça fonctionne.
Mais quand le chef des opérations humanitaires de l'ONU parle de signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique, vous partagez cette analyse ou vous êtes plutôt sur la position du président Touadéra qui juge, lui, que le terme est trop fort?
Alors l'utilisation du terme génocide, c'est toujours quelque chose qui est utilisé stratégiquement, si vous voulez. C'est-à-dire que j'imagine en effet qu'on a utilisé le terme génocide pour obtenir plus de moyens. Nous, en tant que chercheurs, on ne parle pas là de génocide. Par contre, dans certaines villes, qu'il y ait des risques que des populations entières soient massivement ciblées par d'autres populations, de nettoyage ethnique, par exemple, même si on n'utilise pas toujours ce mot, ça c'est vrai, hein, ça c'est une réalité. On a vu notamment que les Peuls ou les musulmans dans certaines villes étaient vraiment ciblés systématiquement.
Alors actuellement, l'Union africaine conduit une médiation avec les groupes armés. Qu'est-ce qui ferait que cette énième médiation pourrait réussir ou échouer?
Ce dont on s'est rendu compte jusqu'ici, c'est que les médiations internationales n'avaient aucun effet sur la situation locale. Ça va peut-être changer. L'intérêt d'avoir les voisins qui soient associés à ce type de médiation, c'est qu'il ne peut y avoir de stabilisation sur le long terme si on n'associe pas les voisins. On a vu la jurisprudence justement des présidents Bozizé et Patassé, par exemple, c'est qu'une fois qu'ils ont été isolés sur le plan régional, ils ont été destitués par les armes. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui pour essayer d'avoir une stabilisation sur le long terme, c'est aussi travailler entre la Centrafrique et ses voisins sur des socles d'intérêts communs très concrets. Par exemple, on peut penser à la gestion de la transhumance transfrontalière. Là, il y a des dossiers à fouiller, il y a des coopérations bilatérales qui se sont effondrées avec la crise à réactiver.
Sur le plan sécuritaire, la MINUSCA semble incapable de remplir son mandat efficacement. Comment vous l'expliquez?
Il y a tout un tas de problèmes et qui sont des problèmes assez classiques sur les missions de maintien de la paix. Je pense qu'aujourd'hui, alors que justement la MINUSCA demande plus de contingents, ce qui est important, il faut à la fois penser à des contingents additionnels, mais il faut aussi penser à des contingents qui soient capables. On a vu par exemple à Bambari que les Portugais, au début de l'année, avaient été capables d'exercer une pression un peu plus importante sur les groupes armés. Et donc, il faut se pencher là-dessus, quel type de force on a besoin pour pouvoir exercer cette pression sur les groupes armés. Il ne s'agit pas de défaire militairement les groupes armés, hein, ça n'arrivera pas. Il s'agit de les pousser à négocier. Ça veut dire aussi s'attaquer à leurs ressources, qui sont les trafics de minerais, de café, d'un certain nombre de ressources, de bétail, beaucoup. Nous, ce qu'on proposait, c'est de faire un petit peu comme si c'était fait en Sierra Leone et au Liberia, c'est-à-dire de déployer, par exemple, quelques contingents sur les principaux sites miniers, de telle sorte qu'on puisse faire revenir l'administration minière centrafricaine et éloigner les groupes armés de ces sources de financement. Sur le trafic du bétail, on pourrait aussi penser à une sécurisation de certains points de la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, où une partie du bétail est écoulée.
Et davantage de sanctions économiques contre certains chefs de groupes armés?
Oui, ça c'est toujours effectivement quelque chose d'important. Ça produit pas toujours des effets immédiats, hein, mais c'est important à la fois de sanctionner les leaders de groupes armés, mais aussi les entreprises qui ont à un moment soutenu ces groupes armés. Ça a été le cas de quelques diamantaires de la place.
Est-ce qu'il est possible de négocier avec les chefs de guerre sans laisser la question de l'amnistie sur la table?
Ce qu'on peut dire sur l'amnistie, c'est que ça a déjà été tenté par le passé. Il y a eu plusieurs lois d'amnistie en Centrafrique qui étaient conditionnées à un désarmement et que ça n'a jamais eu aucun effet, puisque aucun désarmement n'a été effectué en réalité. On pense même, nous, que ça produit des effets délétères sur le long terme et qu'en fait, ça a plutôt encouragé certains, parfois, leaders de groupes armés ou certains leaders politiques à prendre la tête d'un groupe armé.
Des représentants de groupes armés ont refait leur entrée au gouvernement ce mois-ci à la faveur du dernier remaniement. Est-ce qu'on ne retombe pas un peu là dans les affres du passé avec une prime donnée à ceux qui ont pris les armes?
Alors, il faut des incitations positives, hein, bien sûr, pour les leaders des groupes armés pour qu'ils puissent rejoindre un processus de paix. Nous, on propose, au lieu de faire de l'inclusivité politique au niveau national qui n'a jamais produit d'effet, au contraire, c'est d'essayer d'identifier certains leaders de groupes armés qui sont peut-être moins sanglants, plus modérés, et de leur faire jouer un rôle plus positif au niveau local auprès des communautés qu'ils disent défendre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de propulser les leaders les plus sanglants, hein, dans un processus politique même local, mais peut-être des leaders plus modérés.
Thibault Le Sueur, merci.